Bonjour et bienvenue dans Public Débat Radio, la radio qui défend vos opinions. Aujourd'hui, en cette magnifique journée du 4 décembre 2017, nous recevons quatre invités les plus concernés par la problématique. Le premier que j'ai prénommé Cédric Sauterne. Cédric, bonjour.
Bonjour.
Donc Cédric est un scientifique spécialiste du numérique et de l'économie. Il est auteur de l'ouvrage « Robotisation ou manipulation ?»
Monopolisation.
Monopolisation, excusez-moi Cédric. Donc qu'on pourrait qualifier, synthétiser en une phrase. C'est une enquête bouleversante qui fait réfléchir sur notre futur. Contrôlerons-nous les industries de demain ou seront-elles contrôlées par nos robots? Quelque chose à ajouter Cédric?
Non, présenter les autres invités.
Très bien. Ensuite, Steven Moisan, industriel, dirigeant de MSA Automobile, donc très très grande manufacture d'automobiles, à environ 3000 véhicules par jour, et la plus grande chaîne de production d'Europe. Donc c'est Steven, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Donc Steven, si je ne me trompe pas, vous souhaitez vous imposer sur le marché asiatique d'ici 2019.
Oui.
Et donc vous allez nous expliquer un peu quels sont les intérêts de l'IA et de la robotisation.
C'est ça.
On le sait aussi par source sûre que c'est vous l'auteur du guide pour conquérir l'industrialisation. C'est ça?
Oui, en effet, oui.
Très bien. La troisième personne, prénommée Michel Ursul. Michel, bonjour.
Bonjour.
Donc Michel est employé pour Green Manufacturing, une entreprise française de 30 salariés, donc qui se charge de production de meubles 100% écologiques et aussi 100% made in France.
C'est ça.
Vous avez aussi défendu Benoît Hamon durant sa campagne, et particulièrement sur la future utilisation de l'intelligence artificielle dans de petites entreprises telles que la vôtre.
Exactement.
Malheureusement, vous avez une histoire un peu tragique, car lors d'une coupe de bois pour construire un de vos meubles, vous avez perdu votre doigt et vous espérez qu'aujourd'hui, avec les progrès technologiques de l'époque du 21e siècle, que la robotisation puisse et vous permette de recommencer à travailler.
Exactement.
Ben, je vous le souhaite. Et le dernier invité de marque cette fois-ci, monsieur Kevin Cordemet, donc, qui est militant et initiateur du mouvement Non à l'industrie 4.0, dont on a beaucoup entendu parler en ce moment dans les journaux, donc qui milite contre l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les sites de production et veut protéger l'emploi. Vous aussi, vous avez une histoire un peu particulière, car suite à l'arrivée de l'industrie 4.0 dans votre lieu de travail, vous avez perdu votre emploi ainsi que 400 de vos collègues. Donc aujourd'hui, je vous le rappelle, on va parler de la robotisation du travail et de l'intelligence artificielle. Donc déjà, est-ce qu'un de vous quatre pourrait me définir la robotisation ou l'intelligence artificielle dans le milieu du travail?
Je vais commencer et lancer ce débat. Donc la robotisation dans le milieu industriel, pour moi en tout cas, ça va être un gain de productivité. Elle va permettre de remplacer l'homme dans les tâches les plus complexes, celles qu'il ne peut pas réaliser seul, et ça va le soulager pour réaliser des tâches qui peuvent être dangereuses.
Très bien, donc vous Steven, vous êtes on va dire pour l'industrialisation.
Si.
Est-ce que peut-être Cédric Sauterne,
Monsieur Sauterne, j'aimerais réagir à ce que vous avez dit, Monsieur Moisan. Vous avez parlé que l'homme allait remplacer les robots pour certaines tâches, mais il va carrément prendre sa place et non pas forcément l'aider. Car d'après une étude américaine, 50% des emplois vont disparaître à cause des robots d'ici 2025.
C'est faux ce que vous soutenez, car j'ai une étude du CNRS qui démontre qu'au Brésil, en 10 ans, le taux de chômage est passé de 14% à 4%. En parallèle de ça, le nombre de robots dans... le pays du Brésil est passé de 10 000 à 80 000. Donc, cela vient démonter.
Vous citez le Brésil qui est un pays en pleine croissance.
Oui, donc j'ai pris l'exemple de l'Allemagne qui est un pays industrialisé. Donc, pour 321 robots et 10 000 employés, l'Allemagne possède 4% de chômage. Alors qu'en France, pour 127 robots et 10 000 employés, l'Allemagne possède 10% la France possède 10% de chômage.
À présent, dites-moi des statistiques sur les pays africains, s'il vous plaît, et les robots.
Bon, effectivement, monsieur Sauterne,
je n'ai pas les éléments.
Monsieur Moisan n'a pas non plus tous les éléments avec lui. Peut-être que monsieur Ursul ou monsieur Cordemet a quelque chose à ajouter.
Non, mais moi je pense que de toute façon, la robotisation c'est la perte de l'emploi dans l'entreprise.
Pourquoi la perte de l'emploi dans l'entreprise? Vous pensez que le robot ici, juste pour.
Le robot est là pour remplacer les hommes. et pour que cela coûte moins cher aux employeurs et pour faire plus de profit, mais du coup licencier un maximum de personnes pour verser moins de salaire.
Excusez-moi, moi je suis plutôt contre ça. J'irais plutôt que le robot n'aime pas une requalification, un remplacement de l'emploi, mais plutôt à une requalification de l'emploi. En fait, chacun peut suivre une nouvelle formation adaptée aux besoins de son entreprise et peut ainsi avoir un poste meilleur et un salaire meilleur. Par exemple, pour moi, j'ai eu la malchance de perdre un doigt lors d'une coupe de bois. Et aujourd'hui, grâce à mon entreprise et à ma formation que je suis, je peux réaliser une nouvelle formation qui peut justement répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise et retrouver un emploi que je peux occuper pleinement et tout en étant beaucoup plus en sécurité.
Et qui me paye alors pendant cette formation ?
L'entreprise ?
Quelle entreprise ?
L'entreprise qui m'emploie.
Oui, donc je pense que M. Hirsul ici est la preuve même que la robotisation peut faire de belles choses. Néanmoins, vous, M. Sauter, M. Cordonnier, vous n'êtes pas d'accord face à ça. Et je pense qu'on peut continuer le débat. Et on peut se poser la question, comment vous imaginerez l'industrie du futur ? Non pas aujourd'hui, mais par exemple dans 10 ans, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle et aussi la robotisation. Est-ce que vous allez voir de nouveaux métiers surgir ou des métiers au contraire devenir beaucoup moins intéressants et que par exemple les robots prennent plus la place de l'homme ?
Effectivement, les robots prennent plus la place de l'homme depuis...
On parle de dans 10 ans, pas
dans 10 ans. Oui, 10 ans. Mais depuis toujours, les robots ont remplacé l'homme, ils remplacent petit à petit, vu c'était les métiers industriels, maintenant ça commence petit à petit à prendre la place de l'homme dans les métiers plus intellectuels. Donc c'est l'homme faux. N'aura plus c'est sa faux. Place dans les industries.
C'est faux.
Oui, monsieur.
Ce que vous dites, c'est faux, car oui, le robot, dans le futur, il remplacera l'homme dans les tâches complexes. Mais dans ce que vous dites, les tâches intellectuelles, le robot, par exemple, il pourra... Le robot... Non,
on est d'accord que le robot, il est fabriqué par l'homme. Oui. Du coup, l'homme, c'est un peu la machine au-dessus du robot.
C'est un point que je ne comprends pas. Je pense. Il n'y a pas encore bah, même
à partir du moment où nous créons un robot, nous l'avons créé, il est donc inférieur à nous. Enfin, c'est ce que la population, je parle population là, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Donc j'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu sur le sujet.
Mais maintenant, il y a des usines avec des robots qui fabriquent d'autres robots. Donc c'est les robots qui ont fabriqué les robots qui sont au-dessus des autres robots, alors, si j'en suis ce que vous dites.
Mais ils ont été programmés par l'homme, ces robots-là.
Oui, tout mais qui ne dit pas que les robots vont dépasser l'homme quand on pousse la recherche à son maximum pour l'intelligence artificielle
puisse se débrouiller tout seul. Ils devront toujours être cadrés par l'homme parce que le robot, si je devais citer un grand homme connu qui s'appelle Bill Gates, il a dit que les robots, ils étaient bêtes. C'est-à-dire que les robots, ils devront toujours dépendre de nous. C'est nous qui les programmons. Donc si il y a une erreur quelque part, c'est que ça vient de l'humain. Donc le robot, il ne pourra jamais prendre la place de l'homme vu qu'il est programmé par l'homme.
Exactement, je pense que je rejoins monsieur Moisan là-dessus. Je pense que le robot a plutôt pour objectif de travailler en collaboration avec l'homme et l'aider dans ses tâches les plus difficiles, tout en lui garantissant une sécurité et pour les personnes se situant à une plus haute hiérarchie dans l'entreprise, de garantir une meilleure optimisation de tout ce qui est production et fonctionnement.
Comment expliquez-vous alors que M. Cordonnet a perdu son boulot à cause des robots ?
Oui, le robot ne travaille pas avec l'homme, le robot travaille tout seul.
Oui. Si je peux me permettre, M. Cordonnet nous a confié qu'il n'a pas perdu à cause d'un robot. Si une erreur qui est cette fois due humaine, en fait, c'est tout simplement, c'est moche à dire, mais tailler le doigt avec une scie. Ce n'est pas la scie qui a taillé le doigt de M. Hirsul.
Oui, mais là, on parle d'un cas à part. Je pense qu'il y a plus de personnes qui vont être et qui sont déjà licenciées à cause de la robotisation que de personnes qui vont retrouver un emploi... grâce à la robotisation comme monsieur Hirsul à cause
donc si je comprends bien c'est encore assez vague, on sait pas trop si la robotisation c'est bien pour l'emploi ou mal pour l'emploi. Néanmoins, si on parle de tout ce qui est un peu impact économique, comment vous ressentez la chose ? Est-ce que ça va permettre au pays d'avoir une plus forte croissance économique, moins de chômage derrière et se présenter sur de nouveaux marchés comme en Asie ou ailleurs dans le monde ?
Mais sur un point économique, tout le monde n'est pas égaux. Si on prend par exemple les pays européens qui, eux, ont les moyens de s'industrialiser, de se robotiser, là, tout de suite, la croissance est énorme. Si on prend par exemple les pays émergents qui commencent à s'industrialiser, c'est un peu plus difficile. Et si on prend carrément les pays en marge de la mondialisation, ils prennent beaucoup de retard à cause de la robotisation, car ils n'ont rien pour se robotiser et sont ainsi en retard sur les pays robotisés.
Même les entreprises et les patrons vont sûrement s'enrichir, mais du coup tous les ouvriers vont s'appauvrir et le pouvoir d'achat pour eux va diminuer. Et du coup on pourra plus acheter autant, et les produits fabriqués par les entreprises vont être moins achetés en France et plus dans d'autres pays. Du coup ça va défavoriser l'économie.
Rien. Ouais,
c'est faux.
Je crois que. Attendez, monsieur Mazan, monsieur Ursul, vous avez quelque chose à dire, je crois.
Moi, je pense que cette robotisation permet aussi la relocalisation des entreprises dans nos territoires. Parce que durant plusieurs années, il y a par exemple une dizaine d'années, les entreprises souhaitaient délocaliser leur site dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Or, aujourd'hui, on assiste de plus en plus à un retour des entreprises dans les pays high cost.
Oui, mais on veut. Du coup, par là, vous entendez que ça ferait revivre, entre guillemets, la France.
Voilà. Moins vivre, relocalisation oui. Pour faire travailler les hommes, pas pour les robots. Car des robots qui travaillent en France ou à l'étranger, ça revient au même.
Sauf que pour faire travailler les robots, il faut des hommes.
Il faut des hommes, mais les hommes peuvent par exemple programmer ou fabriquer les robots en France pour les envoyer autre part dans les mêmes entreprises qui existent déjà.
Et vous, monsieur Sauterne, vous qui êtes spécialiste en économie et tout ce qui touche au numérique, est-ce que vous ne pensez pas que comme on parle avec la démocratisation de l'IA, de l'intelligence artificielle dans les entreprises, est-ce qu'il n'y aurait pas des métiers, des nouveaux métiers qui vont se créer avec, par exemple, plus de savoir-faire, notamment au niveau du numérique?
Oui, bien sûr, des nouveaux métiers.
Est-ce que l'homme ne serait pas hiérarchiquement plus haut, avec un poste plus intéressant et de nouvelles contraintes?
Plus intéressant, mais plein d'autres vont perdre leur boulot et n'arriveront pas à se reformer, car ils n'auront aucun moyen de pouvoir suivre cette formation financièrement. Et seuls ceux qui auront déjà d'avance et des bonnes bases pourront s'en sortir.
On n'est pas encore sur la question financière. Pour l'instant, on est encore en train de se projeter sur le futur monde industriel. Mais néanmoins, moi, c'est mon avis personnel. Je pense qu'ici, on pourrait se dire que la robotisation future, ça a amené... en fait, tout ce qu'on pourrait qualifier, par exemple, de sous-poste va se voir évoluer positivement, et donc on aurait plus de postes, on va dire, intéressants pour nos citoyens.
Personnellement, d'après mon vécu, je trouve qu'il y a plutôt une réhiérarchisation au sein de l'entreprise. Je trouve que le salarié et le patron sont beaucoup plus proches du fait de la robotisation. Parce qu'il y a une communication qui est nécessaire, un retour d'expérience par rapport à la robotisation. Donc la hiérarchie au sein d'entreprise, comme elle est connue avec le chef qui dirige les patrons des différents secteurs, qui dirige eux-mêmes les employés, je pense qu'il y a que toute cette hiérarchie est resserrée et qu'il y a beaucoup plus de communication. Je pense que vous pouvez en témoigner, monsieur Moyen.
Oui, je suis d'accord. Puis si j'ai réussi à atteindre la cadence de 3000 véhicules par jour, c'est grâce à l'aide des robots. Ils sont pas venus supprimer les postes, ils sont venus les assister. Et donc le fait de pouvoir déléguer plus de tâches aux robots pour une entreprise comme la mienne qui a un rayonnement international, ça permet de se concentrer sur d'autres problématiques. Donc moi, je suis pour la robotisation dans le futur. Et vous parlez, je mets une nuance au fait qu'il faudrait qu'on définisse ensemble les règles et les limites de la robotisation. Je ne suis pas pour une robotisation à outrance.
Mais vous parlez des robots qui viennent assister les ouvriers, mais est-ce que les ouvriers, vous avez pris leur point de vue? Parce que cet ouvrier qui travaille avec des robots, il ne sait plus avec ses collègues le contact social, il n'y en a presque plus aucun, il est seul avec ses robots. Par exemple, je travaille dans l'économie, je sais qu'il y a un énorme déficit à la sécurité sociale à cause des dépressions engendrées par les robotisations et toute dépression qui s'ensuit, car les gens n'ont plus aucun contact social, ils ne travaillent qu'avec des robots et plus de collègues. Et les gens qui ont perdu leur emploi aussi ont du mal après à rebondir parce qu'ils ont perdu leur emploi à cause des robots.
Mais au contraire, étant salarié, j'ai le sentiment que les entreprises font un effort dans tout ce qui est psychologie et assistance aux ouvriers. Ils cherchent à être beaucoup plus présents, et que ce soit mentalement, psychologiquement, et justement ils cherchent à aider pour justement limiter ces effets inverses souhaités par le robot sur la psychologie de l'employé.
Très bien, très bien. Donc maintenant on va passer un peu à un témoignage. On a eu la chance de trouver un témoignage. C'est Monsieur Beau en fait qui a intégré, lui qui a fait le test d'intégrer la nouvelle technologie, donc la robotisation et l'intelligence artificielle dans son entreprise. Il va nous avouer avoir étendu son marché et quasiment doublé sa cadence de production. Donc nous allons écouter son extrait.
L'idée, c'était de se dire, plutôt que contrôler la production, ce qui se fait parfois quelques heures, voire plusieurs jours après que les pièces soient réalisées, l'idée, c'était de piloter la production, c'est-à-dire de contrôler en réel la pièce produite, en temps réel, et puis de pouvoir corriger s'il y a des dérives, de manière à être toujours sous maîtrise du process de fabrication.
Donc, Monsieur Beau, ici, je vous ai pas encore mis l'extrait entier parce qu'il est assez long. Mais en tout cas, à la fin, il nous confie que dans l'industrie 4.0, les hommes travaillent non pas contre les machines, mais avec les machines, et c'est même l'esprit d'analyse de l'homme qui est plus important. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que face à ce témoignage-là, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Beau ou pas du tout ?
Dans ce cas-là, si le robot travaille avec l'homme, je suis plutôt d'accord. Mais par exemple, Monsieur Moissan, combien d'employés aviez-vous avant la robotisation et... en avez-vous plus ou moins ou à tout égal avec les robots aujourd'hui?
Je vais vous mentir, j'en ai forcément moins, mais le robot j'en ai forcément moins, mais la qualité du produit fini est en augmentation par rapport à avant quand j'avais plus d'ouvriers.
Mais là les avantages sont que pour votre entreprise et pas pour
les ouvriers.
Donc, essayons de rester. Ouais, allez-y.
Je pense que justement, pour ces personnes qui peuvent perdre leur emploi à cause de cette robotisation et de ces destructions des postes à plus faible valeur ajoutée, je pense que ces personnes ont la possibilité maintenant de pouvoir se former et accéder à un niveau de qualification plus élevé. Et comme par exemple moi, justement, je vais pouvoir prochainement, à la fin de ma formation, pouvoir travailler en collaboration avec des robots pour justement faire le métier que j'aime tout en étant efficace au maximum malgré mon handicap.
Et par exemple, dans notre entreprise, nous avons été 200 à se faire licencier. Et vous pensez que une chose va être mise en place pour requalifier mes 200 collègues pour ainsi travailler à... avec les robots ou
effectivement je pense que oui, parce que comme nous l'a dit Monsieur Beau,
le travail n'est pas le même.
Comme nous l'a dit Monsieur Beau, au début son entreprise était bien moins réactive, et grâce à l'arrivée des robots son entreprise était plus réactive. Il a donc pu se projeter plus facilement et plus loin dans son futur, et donc par là il a rembauché des ouvriers qu'il avait licenciés auparavant. Et donc ce qui va vraiment être intéressant ici, ça c'est encore mon avis, une fois peut-être l'avis de vous quatre, c'est que l'arrivée de l'IA ici va nous permettre donc de pouvoir anticiper plus facilement ce qui va arriver, et aussi de peut-être trouver d'autres solutions qui seraient meilleures que l'IA et la robotisation au sein de l'entreprise.
Mais encore, tout est une question financière encore. Si c'est très bien de remplacer les robots, puis comme dit monsieur Ursule, de former les gens, mais comment les forme-t-on? Il y a un coût, tout cela n'est pas gratuit. Et en tant qu'économiste, je sais que les temps sont particulièrement difficiles pour l'emploi et la formation a un certain prix. Tout le monde n'a pas les capacités de se reformer, surtout à des âges. Certains licenciés ont plus de 50 ans et sont tout juste reformés. Et après, à l'embauche, on leur demande de l'expérience dans leur nouveau domaine et ils n'en ont aucun. Donc.
C'est vrai que je vous rejoins
sur ce terme. Qui va reformer des milliers d'ouvriers licenciés? Il faudra beaucoup de monde.
C'est une question à laquelle nous répondrons dans un prochain débat. Néanmoins, j'ai une autre question qui m'est parvenue. Et on va parler de tout ce qui est aspect production, plus de production, mais peut-être plus de déchets. Donc on va parler un peu de tout ce qui est conséquences environnementales. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur ça? Est-ce que la prochaine industrie va avoir des conséquences environnementales plus désastreuses encore que le réchauffement climatique, ou au contraire, on va être dans une industrie plus propre et on va là pouvoir, par le biais de la robotisation et l'intelligence artificielle, économiser de la matière, économiser de l'énergie et économiser du temps.
D'après certains de mes collègues climatologues, et qui travaillent sur tout ce qui est environnement, les robots consomment énormément d'électricité. La consommation d'électricité, je peux prendre par exemple votre entreprise, Monsieur Moisan, a dû fortement augmenter à l'arrivée des robots.
Oui, c'est vrai. Je n'avoue ne pas avoir les éléments pour répondre aux attaques. Néanmoins, si je prends une étude du journal du Monde, actuellement l'agriculture consomme 60%, 70% d'eau et des ressources d'eau dans notre planète. Et il y a une étude qui montre qu'avec la robotisation de l'agriculture dans le futur, on diminuera la consommation de 80%. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est nuancer vos propos, car depuis tout à l'heure, vous m'attaquez que sur un domaine précis. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette d'accord sur les limites que la robotisation incombe. Et moi, je continue à soutenir que dans le futur, la robotisation, elle sera un atout pour notre planète, malgré ce que vous tentez de faire comme essai.
On vient de me dire que quelqu'un a réagi sur Twitter. Donc il se prénomme Clément Dessailly et nous pose la question suivante. L'intelligence artificielle va-t-elle prendre la place de l'homme? Quelles seront les limites de l'IA? Donc déjà on peut remercier Clément pour cette question. Et j'aimerais avoir votre ressenti.
Personnellement, je ne pense pas avoir le niveau de qualification relevé pour répondre à cette question. Mais je pense que l'intelligence artificielle, comme le robot, est là pour travailler en collaboration avec l'homme et justement profiter à l'optimisation des entreprises.
D'accord.
Non, mais moi, je pense toujours qu'elle va prendre carrément la place de l'homme. Ou alors, peut-être pas complètement, mais en grande partie en tout cas.
Très bien. Est-ce que vous pensez que plus tard, le robot aura plus de droits que l'homme?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là où il faudrait mettre des limites.
Très bien, oui.
Il faudrait légiférer sur qu'est-ce que le robot fera dans l'entreprise, s'il prend la place de l'homme, ou ce qu'il faudrait, c'est que le robot soit relégué aux tâches complexes, mais pas aux tâches décisionnaires, car actuellement, le robot n'a pas la conscience pour faire des choix. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est réguler la robotisation.
Donc là, on parle actuellement. Est-ce que vous pensez dans le futur, encore une fois, que les robots auront cette capacité décisionnelle et pourront prendre des décisions à nos places? Parce que c'est une question, c'est vrai que... Mais moi, je me la suis déjà posée. Que si à un moment, on contrôle plus ce qu'on fait et c'est les robots qui nous contrôlent, c'est vrai que ça va être problématique.
Pas les éléments de réponse.
Le progrès ne s'arrête pas. Les robots étaient à peine capables de réaliser quelques tâches il y a 100 ans. Aujourd'hui, ils sont capables de construire les voitures de M. Moisan à 3000 par jour.
Je crois.
Donc s'ils sont capables de faire ça à une vitesse assez folle, ils seront bien capables dans quelques années.
Peut-être que M. Moisan a une grande équipe de robots, je connais pas le nombre de robots.
Ils seront bien capables dans quelques années de pouvoir prendre des décisions. Il y a encore, par exemple, des robots qui... Là, si je prends votre téléphone, par exemple, il doit bien y avoir un assistant tel que Siri ou Cortana, ou même un nouveau robot, une nouvelle boîte Google Home qui permet de faire des tâches et de nous rappeler certaines choses. Donc ils ont aussi un pouvoir décisionnel.
Vous pensez en fait qu'on est déjà rentré dans... que les robots commencent déjà à contrôler notre
commence déjà, oui. Ils nous conseillent plein de choses. Hein. On peut programmer pour qu'ils nous rappellent de certaines choses, ils nous préviennent quand partir, si on a un rendez-vous, des choses comme ça. Donc ils peuvent nous influencer déjà.
Comme vous le dites, ils sont programmés. Donc ça veut dire que l'homme reste capable de donner des ordres à ce robot pour que justement lui puisse me donner les ordres à son tour. Et moi je pense qu'il peut agir comme deuxième cerveau, comme deuxième mémoire, qui peut nous soutenir justement dans nos activités quotidiennes. Et non pas ne remplacer notre réflexion, notre savoir et tout ce qui...
Pourquoi bon faire des robots si on veut les limiter alors ? C'est pas vraiment de sens. Si on veut les meilleurs robots, tout ça, ils vont bien falloir qu'ils progressent et un jour ils arriveront à prendre des décisions et peut-être même à surpasser l'homme dans les choix.
Monsieur Bardemet, votre avis sur la question ?
Non, mais je pense que d'abord je suis pas venu ici pour débattre de cette question. Ensuite, je ne suis pas qualifié pour non plus. Après,
très bien, votre avis, votre réaction à chaud, c'est quoi là ?
Mais pour la vie d'un homme de tous les jours, chez lui, l'IA peut être bénéfique, mais dans le monde de l'entreprise, tout ça, je pense toujours que cela va réduire l'emploi. Même si pour les entreprises, ça peut être un très bon atout pour être plus compétitif.
Bon, très bien, donc nous allons à présent résumer un peu l'émission d'aujourd'hui. En premier, nous avons traité un peu de la globalisation, de la robotisation en général. Donc on a vu qu'elle était de plus en plus présente dans le monde du travail et qu'elle serait amenée à encore être plus présente, avec peut-être des points positifs et des points aussi des aspects négatifs. Au niveau économique, ce serait fortement vraiment intéressant, comme M. Mazon nous l'a dit, car lui, maintenant, il se voit même sur le marché asiatique. Et au niveau économique, on gagnerait de l'argent et aussi, on en ferait plus.
Enfin, si je peux me permettre, nous, on gagnerait de l'argent, tous les pays européens, mais certains pays vont voir l'inégalité s'accroître, comme les pays en marge de la mondialisation. Si je peux prendre l'exemple des pays africains qui, eux, ont vraiment déjà beaucoup de mal à avoir de l'industrie. Si en plus nous commençons à nous robotiser et eux n'ont pas encore eu le temps de créer les industries et qu'ils n'ont même pas eu encore ne serait-ce que les débuts de la robotisation, ils vont prendre beaucoup de retard et eux ne vont pas leur croissance ne va pas croître comme nous.
Et peut-être qu'on pourrait penser dans une future émission à l'aspect tout ce qui est recyclage des anciens moyens de production des pays développés pour les transférer peut-être dans des pays du tiers-monde. Où... Néanmoins, je vais continuer sur la conclusion. Donc, après l'aspect économique, on a vu aussi que la production évoluerait, ce qui est en lien avec l'aspect économique, avec un témoignage de Monsieur Beau, qui a lui fait expérience une première fois, donc un peu une expérience qu'on pourrait qualifier de la première au monde, d'intégrer à la fois la robotisation et l'intelligence artificielle dans son entreprise. On a vu qu'il a étendu ce marché, qu'il faisait, il avait moins de déchets au niveau de ses pièces, que ses pièces étaient plus précises et car il y avait moins d'erreurs de l'homme encore une fois. Et donc sa cadence de production a par la suite doublé. Grâce à Clément Dessailly sur Twitter, on a pu réfléchir un peu sur tout ce qui était éthique au niveau de la robotisation, si la robotisation contrôlait ou pas notre quotidien. Il s'est avéré que c'est encore une question. Une question
délicate,
oui, comme un peu le débat d'aujourd'hui. Et donc, je vais vous remercier, vous quatre, monsieur Moisan, monsieur Arsul, monsieur Cordemé et monsieur Sauterne, d'être venus et d'être présents aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons donc des nouvelles formes d'énergie du futur, et tout ça avec cette fois-ci 5 invités de marque.